géopolitique, Daniel Grillon.
Par familles entières, il fuit la violence des guerres, il fuit la pauvreté, ou les deux à la fois. La presse, tout comme les opinions publiques, les regroupe souvent sous un même nom générique, les migrants. Angela Merkel le disait cette semaine, ces migrants, fruits d'une crise humanitaire sans précédent, vont occuper l'Union européenne bien plus que la Grèce et la stabilité de l'euro. À Berlin, devant la chancelière allemande, François Hollande ne disait pas autre chose.
Les chiffres ne renseignent pas encore suffisamment sur les drames qui peuvent être vécus. Et en même temps, ce sont des épreuves pour les familles concernées, ce sont aussi des épreuves pour les pays qui sont, en vertu de leur tradition, en vertu aussi de leur devoir, dans la responsabilité d'accueillir. Je sais ce que représente pour l'Allemagne, d'une autre façon pour la France, l'accueil de ces réfugiés. Et c'est une responsabilité qui ne peut pas être laissée à un pays en particulier, mais qui concerne toute l'Europe. D'abord, qu'il puisse y avoir une accélération de la mise en place des centres d'accueil en Italie et en Grèce. C'est indispensable pour enregistrer les personnes qui viennent jusque à nos côtes pour entrer en Europe. Et faire à ce moment-là la distinction qui est nécessaire entre les personnes qui relèvent de l'asile et les personnes qui viennent là simplement pour une migration que l'on peut comprendre, mais qui ne peut pas être acceptée en tant que telle.
La question centrale à laquelle Géopolitique vous propose des réponses les plus précises possibles, chers auditeurs d'RFI, est la suivante. Ces centaines de milliers de migrants sont-ils une chance pour l'Europe ou pas? Une chance économique, une chance culturelle. Bonjour François Héran.
Bonjour.
Vous êtes démographe, 10 ans à la tête de l'INED, l'Institut National des Études Démographiques. Y a-t-il tout d'abord des précédents historiques en Europe ou dans le monde?
Écoutez, on pense que depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas un précédent d'une telle ampleur, mais il y a déjà eu quand même des vagues de réfugiés très importantes. Les guerres balkaniques, les guerres de l'ex-Yougoslavie ont déclenché une vague de réfugiés considérable. C'est l'Allemagne, essentiellement, qui s'est chargée de les accueillir. La France a très très peu participé à l'accueil des migrants balkaniques, à partir de 92 d'abord, dans la première guerre. Ensuite, il y a eu également la guerre du Kosovo, une dizaine d'années plus tard. Et ces deux vagues de migration...
Combien de personnes au total
hein? Je ne saurais vous dire, mais ça a été un afflux considérable par rapport à ce à quoi les pays étaient habitués. Et puis, en dehors des moments critiques, des grandes crises comme ça, il y a aussi un certain nombre de pays qui ont une tradition d'accueil de refuge qui est très très forte. La Suède, la Norvège, proportionnellement leur population, car il faut toujours aussi raisonner, c'est ce qu'on oublie souvent dans tout ce qu'on entend, proportionnellement leur population, la Suède et la Norvège accueillent un très grand nombre de réfugiés. Où vont les réfugiés irakiens? Où allaient les réfugiés érythréens avant la crise actuelle? Essentiellement, ils étaient accueillis par ces pays-là. Le plus gros de la migration dans les pays du Nord, c'est une migration de refuge, alors que chez nous, elle est très minoritaire en France.
Alors, nous allons y revenir. Pour poursuivre sur ces précédents historiques, pour vous donc, le précédent le plus marquant pour vous sont les Balkans.
Alors, au niveau quantitatif, à l'échelle de l'Europe, on a eu, par exemple, nous avons accueilli évidemment les boat people du Vietnam, c'est un autre précédent, au début des années 70. Mais, il y a eu aussi les réfugiés chiliens, après le coup d'État de Pinochet. La France a été le principal pays d'accueil avec l'Espagne des réfugiés chiliens, qui la plupart d'ailleurs sont repartis ensuite quand la démocratie est revenue.
Donc il y a des... En termes de nombre de réfugiés à l'époque,
oui.
C'était...
Et puis nous avons un exemple, si vous voulez, qui est très intéressant, mais qui peut-être, dont l'évocation risque peut-être de choquer, parce que la comparaison... Enfin, nous avons accueilli les rapatriés. Les rapatriés, il faut s'en rappeler, ça a été en 1962, à la fin de la guerre d'Algérie, 1 million de personnes. Et quand vous lisez le verbatim des conversations que Perfit a eu avec le général de Gaulle, qui a été publié, au début, on explique au général de Gaulle qu'à la fin de la guerre de l'Algérie, il va y avoir peut-être 10 000 rapatriés qui vont venir en France. C'est pas possible. impossible. Jamais on arrivera à accueillir 10 000 personnes. Et puis de jour en jour, le chiffre grandit. Et on arrive à 20 000, on dépasse 100 000. Enfin, tout le monde absolument consterné en disant que jamais on arrivera, on n'a absolument pas les capacités d'accueil pour de telles quantités. Et finalement, il y a eu 1 million. Alors évidemment, c'était 1 million dans une période de croissance, pas tout à fait le même contexte économique. Mais on n'a pas dit à cette époque-là qu'on n'avait pas les capacités d'accueil pour refuser d'accueillir le million de rapatriés. Alors évidemment, ils étaient français, même si à peu près la moitié des rapatriés sont en des origines espagnoles, baléarèses, maltaises, etc., puisque c'est comme ça que l'armée française avait recruté les colons français. Donc c'est un précédent intéressant parce que ça a été une masse de réfugiés qui sont arrivés d'un coup, comme le Portugal l'a connu aussi avec l'Angola et le Mozambique.
Est-ce que d'autres pays en Europe ou dans le monde du reste ont connu de tels précédents?
Il y a eu l'Allemagne a accueilli évidemment des masses considérables de réfugiés alors qu'ils venaient d'abord de l'ex-Allemagne de l'Est avant la chute du mur. Ensuite, il y a eu les Aussiedler, les Russes ou les Kazakhs, il y a eu beaucoup de Kazakhs aussi qui étaient plus ou moins d'origine allemande, qui souvent ne savaient plus parler l'allemand, mais qui avaient une espèce de droit de retour et qui ont considérablement gonflé les chiffres de l'immigration dans les années 90 aussi. L'Allemagne a été dans les années 90 le plus grand pays d'immigration en Europe, de loin, très très au-dessus des chiffres français.
L'Allemagne. Thomas Liebig, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes allemand et vous êtes économiste à l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Les précédents historiques, vous en voyez d'autres ou ce sont là pour vous les principaux marquants
En effet, le principal marquant, c'est la crise des débuts des années 90. Mais il faut aussi constater que la situation était comme assez différente à cette époque-là, comme vient de constater François Aron, que juste avant cette crise humanitaire, il y avait de forts flux, notamment des Allemands de l'Est et aussi des soi-disant Aussiedler, donc de l'Europe de l'Est, des personnes d'origine ethnique allemande qui sont revenues en Allemagne. Donc une immigration à une ampleur très très importante, mais qui venait pas pour des raisons du marché du travail. Ensuite, il y avait cette grande vague humanitaire qui est arrivée en Allemagne, à une période où le taux de chômage était quand même bien plus élevé qu'aujourd'hui. Et il y a une autre différence par rapport aux années 90, c'est que la diversité de flux que nous avons en ce moment, elle est quand même bien, bien au-delà de ce que nous avons connu à cette époque-là, où c'était essentiellement l'Europe, même s'il y avait aussi déjà pas mal de flux aussi d'origine d'Afrique et de l'Asie. Mais maintenant, si nous regardons le principal pays d'origine, il y a beaucoup de pays en crise. Il y a la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak. Trois pays où la situation ne va pas s'améliorer dans un avenir très très proche, malheureusement.
Et l'Afrique, et le continent africain.
Il y a le continent africain, il y a aussi l'Érythrée, la Somalie par exemple notamment. Il y a aussi le Balkan qui est aussi, notamment en Allemagne maintenant. Si nous prenons tout ensemble le Balkan, même si le taux de reconnaissance de ces personnes qui demandent l'asile, donc ceux qui deviennent à la fin de véritables réfugiés, elle est très très faible, c'est quasiment c'est 1% de cette population qui demande l'asile, qui l'obtient enfin. Ça fait une diversité qu'on n'a pas connue avant, et aussi les chiffres sont bien plus élevés qu'au début des années 90. En 92, l'Allemagne a accueilli un peu plus que 400 000 de demandeurs d'asile, et pour cette année, le gouvernement allemand, selon les dernières estimations, s'attend à un chiffre qui peut arriver jusqu'à 800 000 personnes, même si à la fin, ce chiffre peut s'avérer un petit peu une estimation un peu vers la haute.
Géopolitique, Daniel Grillon.
William Lessiswing, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes en Chine en ce moment, où nous vous joignons par téléphone. Vous êtes le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations. Vous êtes par ailleurs américain, ce qui veut dire aussi un regard, pour vous américain, peut-être un peu particulier. Est-ce que, à ces précédents historiques et actuels que nous évoquons, vous voyez à l'échelle mondiale d'autres précédents qu'il faudrait rappeler ?
Écoutez, je trouve la période actuelle est, pour moi et pour nous dans l'OIM, sans précédent pour plusieurs raisons. Premièrement, on n'a jamais eu le nombre de conflits humanitaires et les désastres et les urgences humanitaires sans des négociations ou un processus politique qui peut nous donner l'espoir d'avoir une solution dans le court moyen terme. Deuxièmement, il y a plus de mobilité humaine que jamais dans l'histoire. Troisièmement, il y a plus de monde déplacé, 60 millions, le plus depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a malheureusement un discours public qui est toxique, anti-migrant, anti-étranger, qui fait difficile de trouver une solution. Et notre thèse est très claire. La migration est inévitable. On vient d'écouter nos collègues, les démographes et les économistes. Il est inévitable parce qu'il y a des conflits. Il y a une société vieillissante en Europe et dans tous les pays développés. Il y a une jeune Sud sans travail. C'est tout à fait nécessaire d'avoir la migration si on veut avoir des travailleurs à tout niveau pour remplir les places d'emploi, pour avoir les talents et pour que les économies peuvent vraiment marcher. Et je ne peux pas dire que la migration vont cesser un jour ou l'autre. Ce n'est pas un problème à résoudre. C'est une réalité humaine et globale à gérer. Alors, c'est un peu là où nous sommes maintenant.
Alors, l'objet de cette émission, c'est bien sûr d'apporter des réponses avec des éléments. Reprenons, si vous le voulez bien, messieurs, un exemple, celui de l'Allemagne. Comment l'Allemagne a-t-elle pu, comme ça, intégrer, dans une période économique pas si facile, avec un taux de chômage qui était plus important qu'aujourd'hui, aujourd'hui l'Allemagne est à un peu moins de 5%, c'est-à-dire, dans une économie moderne, c'est quasiment l'emploi pour tout le monde, hein, ça tourne. Comment a-t-elle pu intégrer autant de personnes d'un coup?
Bon, déjà, on a vu beaucoup de difficultés à l'époque. L'Allemagne était beaucoup moins prête qu'aujourd'hui à accueillir des migrants. Je crois que c'est clair de le
Elle
dire.
Elle avait peur. Est-ce que les Allemands avaient peur?
Oui. Oui, je crois qu'on peut vraiment le dire. Il y avait des actes xénophobes assez importants à l'époque. Il y avait aussi des parties xénophobes assez importantes. Il y a aussi les dispositifs d'accueil n'étaient pas en place comme ils sont aujourd'hui. La politique, elle a aussi mis beaucoup plus de temps pour réagir à ces flux-là.
Comment ils ont fait, les Allemands, à ce moment-là? Comment l'économie allemande, notamment, a-t-elle pu intégrer comme ça autant de personnes?
Bon, elle les a mal intégrés. Il y a beaucoup qui n'ont pas été intégrés dans l'économie allemande. Donc, le taux d'emploi de ces personnes-là a été extrêmement faible.
Était ou est extrêmement faible aujourd'hui encore?
Bon, il y a beaucoup qui ont quitté les pays depuis. Beaucoup de pays de migrants, notamment de l'ex-Yougoslavie, de zone en guerre à l'époque, ont eu des statuts pas très stables qui n'ont pas donné un accès au marché du travail, même après plusieurs années. Et en plus, il n'y avait pas de dispositif d'accueil en place, pas de formation linguistique ou très peu, plutôt des mesures ad hoc, pas une reconnaissance de qualification. Tout ça, ce qui est maintenant le cas, n'était pas en place ou pas dans la même hauteur qu'aujourd'hui. En plus, une situation économique qui était beaucoup moins favorable. Donc, beaucoup de ces personnes-là, ils ont pas eu un emploi du tout.
Donc, si je vous comprends bien, une grande partie de ces réfugiés ensuite sont partis ailleurs en Europe ou dans le monde.
Bon, il y a beaucoup qui sont retournés dans le pays d'origine. Oui. Il y avait beaucoup aussi qui sont restés en Allemagne, mais qui étaient mal intégrés, qui n'ont pas eu un travail. Et quand ils ont eu un travail, pas à l'auteur de leur qualification, et qui, jusqu'à maintenant, ne sont pas pris à leur plein potentiel dans l'économie allemande pour ceux qui sont restés. Dans les années 90, je crois que la culture de bienvenue en Allemagne, elle était tout à fait une autre qu'aujourd'hui. Elle était beaucoup moins accueillante que c'est le cas aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, ils sont bien plus organisés, hein, les Allemands. L'économie allemande intègre bien plus. Est-ce que ça veut dire que l'économie allemande, le patronat allemand, les entreprises se sont rendu compte qu'il y avait là une chance, quelque chose à saisir?
Oui, il y a beaucoup de personnes maintenant qui disent que c'est aussi une chance pour l'Allemagne, même s'il faut être quand même réaliste aussi. Dans le court terme, la plupart de ces personnes-là, ils ont besoin d'une aide financière, logistique pour le logement et autres. Et il faut investir dans l'intégration au court terme,
faut assez considérable. Avant que ça rapporte quelque chose.
Avant que ça rapporte quelque chose. Donc, dans le court terme, c'est une...
Oui, je voudrais compléter ce que dit Thomas par deux choses. D'abord, il y a un contraste aujourd'hui encore absolument saisissant entre l'Allemagne, l'ex-Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Le recensement de la population qui n'avait pas été fait depuis les années, la fin des années 80, qui a été enfin fait en 2011 et qui a été publié en 2013, a révélé que, a montré que c'est le phénomène est encore plus fort qu'on ne le pensait, que dans les anciens Länder de l'Est, il n'y a quasiment pas d'immigrés. Les taux, la proportion d'immigrés est peut-être de 4-5%, quelque chose comme ça, dans tous les Länder de l'Est, alors qu'on atteint des proportions qui sont de 12, 15, 20, voire plus encore à Hambourg. Et pourquoi ? Parce que toute la zone communiste n'a absolument pas été habituée à l'immigration. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Et vous savez, quand on dit on rêve d'un pays sans immigrants, sans immigration de peuplement, eh bien, ce rêve, les communistes l'avaient réalisé. Il y avait une toute petite immigration de travail extrêmement contrôlée, par exemple, de Vietnamiens qui n'avaient absolument pas le droit de se marier, de faire venir la famille, un petit peu le genre de contrôle qui existe dans les pays du Golfe maintenant. Donc, ces zones-là n'ont jamais été habituées à toute la migration d'après-guerre des années 60, des années 70, il faut bien comprendre que les partis politiques aujourd'hui rêvent d'un monde sans migration, d'une certaine manière, sont très proches du rêve communiste qui avait été réalisé pendant longtemps.
Communistes, et qui aujourd'hui en pense, avaient réussi à le faire.
Oui,
parce
qu'ils contrôlaient effectivement rigoureusement, ils avaient aussi un mur.
Mais eux, ils tiraient sur les gens.
Voilà, et donc c'est très intéressant de voir qu'après quelques décennies de communisme, les populations qui ont connu ce régime-là ne sont absolument pas habituées à la présence des migrants. Et c'est ça le paradoxe. C'est dans ces zones où il y a le moins de migrants, mais de très loin, 4 fois, 5 fois moins que dans les zones de l'Ouest, c'est dans ces zones-là qu'il y a aussi les réactions les plus xénophobes. Il suffit qu'il y ait un asile qui s'installe pour accueillir quelques migrants, et ça y est, ça met en émoi une partie de la population. Donc je pense que là, ce rappel du passé est intéressant. C'était la première chose que je voulais dire, le contraste entre les deux Allemagnes, toujours très très fort, vérifié par le recensement 2011. Et puis, ce que disait Thomas, ça, on peut le dire un peu d'une autre manière, dans beaucoup de pays d'Europe, on a cru que la migration était provisoire, qu'elle serait purement une migration de travail, une migration d'aide à la reconstruction ou d'aide au développement, et puis qu'ensuite, les gens allaient repartir, et que surtout, la migration de travail ne dégénère pas en une migration de peuplement. Aujourd'hui encore, ce thème est très présent dans certains discours. Il y aurait l'idée qu'après tout, une véritable immigration bien contrôlée, ce serait une immigration purement économique, faite uniquement pour satisfaire nos besoins économiques, et puis dès que ces besoins sont satisfaits, aussitôt les gens repartent et il n'y a surtout pas de regroupement familial. Or, le problème, c'est qu'en réalité, tout ce qu'on a observé depuis des décennies maintenant montre qu'aucune migration de travail, sauf dans les pays du Golfe où tout ça est strictement contrôlé, il faut voir à quel régime politique on se réfère, sauf dans les pays du Golfe où on a une migration strictement économique, mais partout ailleurs, la migration économique a donné lieu à une migration familiale. Quand on lit aujourd'hui les gens qui réfléchissaient sur l'immigration dans les années 70, on disait « Oh, mais les Portugais, ils arrivent très nombreux, mais c'est des bosseurs, ils pensent qu'à construire leur maison au pays, ils vont vite repartir. » On disait ça des Portugais. Ils sont restés. Alors, ils font beaucoup de va-et-vient, ils entretiennent des liens avec le pays d'origine, c'est sûr, mais ils sont bel et bien restés en France et dans des proportions considérables. On disait la même chose des Yougoslaves, c'est étonnant. Donc, cette idée, cette illusion, elle est très ancienne et elle revient sans cesse. Une migration purement économique et non familiale, pas une migration de peuplement. Alors l'Allemagne a pris conscience un peu plus tard que certains de ses voisins qu'effectivement, les Gastarbeiter, les migrants invités juste le temps du travail, en quelque sorte, allaient quand même s'installer, faire des enfants, construire des familles et qu'allait se poser le problème de l'intégration. Et du coup, c'est d'ailleurs quelque chose de très intéressant, les Allemands, contrairement aux Anglais, contrairement aux Américains, ont vraiment récupéré le mot d'ordre français de l'intégration, integration, quand vous regardez regardez sur les logiciels qui vous donnent la fréquence des mots dans les dans la presse, etc. Integration est devenu un mot très très important, très utilisé en Allemagne. C'est le pays qui a suivi après une dizaine de avec une dizaine d'années de retard, qui a suivi la France dans le développement des politiques d'intégration, avec tout le contraint d'intégration, l'apprentissage linguistique dans lequel ils dépensent énormément d'argent actuellement.
Messieurs, nous nous retrouvons dans un instant, juste après les dernières informations sur RFI, la radio du monde.
Géopolitique. Daniel Grillon.
Nous poursuivons avec nos invités pour comprendre et apporter des réponses les plus précises possibles sur ce phénomène dit des migrants, même si évidemment il y a de tout, si j'ose dire, des réfugiés économiques et puis d'autres qui fuient des régimes de terreur ou des guerres civiles. Avant de poursuivre notre discussion, je voudrais vous faire écouter quelque chose. Nous sommes à la frontière entre la Macédoine et la Grèce. Et je vous propose de découvrir le profil des migrants rencontrés par notre envoyé spécial sur place, Charlotte Stivenard.
Les réfugiés arrivent à Gevgelija par une petite route de terre. Le long, des habitants leur vendent des cigarettes, des bouteilles de glacé ou des bananes à la sauvette. Parfois, ils discutent, explique l'un d'eux.
99% des migrants sont des gens bien. Ils ont des diplômes d'ingénieurs, de médecins, mais avec la guerre, ils doivent quitter leur pays.
Mais ce sont aussi des clients qui rapportent moins depuis qu'ils n'attendent plus à la gare, mais dans un camp en cours de construction, plus organisé.
Ça ne nous fait pas travailler. Ils attendent une minute ici et ils s'en vont prendre le bus. Moi, ça ne me rapporte presque rien. Aujourd'hui, je n'ai vendu que pour 3 euros de thé.
La police leur rend aussi la vie difficile car leur activité est illégale. Aujourd'hui, 50 euros d'amende chacun, injuste pour ce cinquantenaire qui a travaillé en Allemagne.
S'il y avait de l'argent, les gens ne viendraient pas ici. Vous savez combien parmi eux n'ont pas l'électricité ?
De maigres revenus, donc, dans un pays où, sans tenir compte de l'économie informelle, 3 personnes sur 10 sont au chômage. Charlotte Stievenard, Gevgelija, RFI.
Alors, dans ce reportage de Charlotte, il y a un mot qui est prononcé, diplôme. Je vous pose la question suivante. Nous revenons à l'économie et aux choses concrètes. Dans l'histoire récente, est-ce que, économiquement, ça a été, si j'ose le mot, une bonne affaire pour certains des pays qui ont accueilli ces vagues de migration ou pas? Et quels pays ont fait une bonne affaire économique? Est-ce qu'il y en a?
Si on regarde le réfugié, je crois qu'il faut être honnête qu'initialement, il y a un investissement à faire pour que les gens ils apprennent la langue, pour qu'ils sont ils sont accueillis, pour mettre tout en place. Les études qui ont été faites, si on regarde par exemple l'impact fiscal de migration, globalement l'impact fiscal de migration il est plutôt neutre, voire faiblement positif.
Alors, ce que vous appelez l'impact fiscal, c'est quoi?
Ça, c'est l'impact fiscal de migration totale. Il y a très peu d'études qui ont été faites spécifiquement pour les réfugiés. Les quelques études qui ont été faites montrent que pour les migrants réfugiés, ça prend un peu plus de temps parce qu'ils n'arrivent pas avec un travail, ils n'arrivent pas forcément pour des raisons économiques, parce qu'ils arrivent pour des raisons parce qu'ils sont des réfugiés. Donc, leur parcours d'intégration est un peu différent que parmi les autres migrants, notamment les migrants qui arrivent déjà avec un travail, c'est clairement qu'ils rapportent initialement moins. Mais ce qu'on voit qu'à partir de 10 ans environ, quelques études qui ont été faites, cet investissement, il commence à se rentabiliser. Et voilà, donc c'est un processus qui prend certainement
donc
de temps.
Donc c'est long. C'est
ça
long.
C'est sûr.
François Héran.
Enfin, dans beaucoup de pays maintenant, le Canada, par exemple, a été pionnier dans ce genre d'études. On mène des enquêtes qui essaient de voir, en fonction de la durée de migration, de l'ancienneté de la date d'entrée, est-ce que les gens trouvent un emploi qui est conforme à leur qualification, comment cette qualification se compare-t-elle à celle du pays d'origine, à celle du pays d'arrivée. C'est pas évident parce qu'il faut de bonnes bases de données pour essayer d'établir le niveau de qualification dans les pays d'origine. C'est souvent très difficile. Mais enfin, peu à peu, ces bases se sont constituées, ont été formées. Mais moi, je voudrais, enfin, sur le fond même, quand même poser une question importante. Souvent, on me demandait quand j'étais directeur de l'INED, mais au fond, quels sont les, est-ce que vous pouvez nous donner des arguments économiques ou démographiques pour justifier l'immigration? Et là, je suis désolé, mais je ne pense pas que les arguments utilitaristes, qu'ils soient économiques ou démographiques, sont nécessairement de bons arguments. Si vous regardez la situation de la France actuellement, en France actuellement, à peu près 90% des flux migratoires que nous recevons chaque année venant donc de pays non européens, 200 000 entrées par an à peu près, hein, de façon très très stable, ça a été complètement stable pendant toute la période Sarkozy, ça continue maintenant, ça a un petit peu progressé mais pas grand chose, et bien 90% de ces migrants sont là, non pas pour les besoins de notre économie ou de notre démographie, ils ne sont pas là pour réparer les creux de notre pyramide des âges ou combler le... Ils sont là parce qu'ils en ont le droit. Ils arrivent à quel titre ? Ils arrivent au nom du droit à vivre en famille, au nom du droit à épouser qui l'on veut. 60 000 personnes entrent chaque année en France parce qu'un Français, peut-être lui-même d'origine étrangère, mais un Français ou une Française a le droit d'épouser une étrangère ou un étranger et de le faire venir. C'est ce qu'on appelle des... Donc c'est des migrations matrimoniales qu'on appelle ça dans certains pays, mais en France on parle du conjoint de Français. Vous avez le droit de faire venir vos enfants, etc. Vous avez le droit d'asile qui représente quelque chose d'assez minoritaire dans tout cet ensemble. Et puis vous avez cette espèce de nouveau droit qui commence de facto à s'établir, mais qui est de plus en plus important, qui est le droit de faire des études dans de bonnes universités étrangères. C'est à peu près 60 000 personnes par an qui entrent en France à ce titre-là, de pays non européens. Donc, quand vous sommez tout ça, qu'est-ce qui reste? Alors, l'introduction directe de travailleurs en France, c'est extrêmement faible, c'est même pas 10% du total, hein. C'est même pas 20 000 sur les 200 000 entrées annuelles, c'est aux alentours plutôt de 18 000. Bon. En réalité, l'immense majorité de la migration qui entre en France, elle y entre tout simplement parce qu'elle en a le droit. Elle en a le droit pourquoi? Parce que la France a souverainement, hein, ratifié des conventions internationales. C'est tout le problème, ça. Est-ce que les arguments doivent être des arguments de droit ou des arguments de marché ou d'intérêt, hein? Et moi, je pense que l'argument, le problème de l'argument utilitariste, c'est qu'il varie en fonction de la situation économique. Alors, il y a des années où ils nous apportent, des années où ils ne sont pas utiles, il y a des pays où ils sont plus utiles que d'autres, il y a des pays où le bilan démographique est plutôt négatif, comme en Allemagne, où il y a plus de décès que de naissances, donc, ah bah oui, ce serait bien de combler les trous avec des migrants. Il y a des pays où, comme la France, où ce n'est pas absolument nécessaire, donc un argument démographique en France ne marche pas, c'est juste une migration de complément, mais pas vraiment de substitution. Donc, je pense que les arguments utilitaristes ont une portée qui est très limitée, instable, alors que les arguments de droit sont des arguments fondamentaux, stables dans le temps.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Daniel Grillon.
William Lacy Swing, vous qui êtes américain, en sus de votre fonction de directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, comment l'Américain voit ce phénomène et comment les Américains, eux, vivent cette immigration qui est permanente vers les États-Unis?
Bon, je crois que c'est plus utile si je parle pas seulement comme Américaine, mais comme directeur général de notre organisation dans un certain sens, parce que là, nous avons... Nous existons depuis 1951, nous étions établis afin d'adresser tous les problèmes humains après la Deuxième Guerre mondiale. Et on oublie souvent que beaucoup d'Européens étaient transportés dans les très bonnes conditions dans plusieurs pays dans le monde. Et il ne faut pas avoir l'amnésie concernant cette situation-là quand on pense de la situation actuelle. Je crois que nous devons faire face en trois ou quatre défis. Premièrement, une perspective. Nous commençons à perdre la perspective sur la situation dans la Méditerranée depuis un certain temps. À partir d'aujourd'hui, il y a 320 000 qui ont traversé la Méditerranée, mais on a perdu presque 2500 personnes. Mais dans une population de 500 millions, je crois que 320 000 n'est pas impossible à gérer. Mais pour ça, il faut avoir une politique qui est compréhensive et qui accepte l'aide de tout le monde. Deuxièmement, il y a la comparaison avec le Liban, la Jordanie, la Turquie. Chacun a plus qu'un million de Syriens réfugiés. qui donne ça une perspective un peu différente. Je crois que nous traitons avec un problème de peur, le stéréotype basé sur la récession économique de 2008-2009. Ils sont venus pour prendre notre travail. Et on a le problème de 9-11, le problème de sécurité. On a peur que les migrants posent un problème de sécurité. On a la question, on va perdre peut-être l'identité nationale ou l'identité personnelle. Et on a en plus une transition psychologique qui est très difficile. Le fait que l'Europe a peuplé le monde pendant 3 ou 4 siècles, et maintenant, depuis 40 années, l'Europe est devenue un continent de destination. Pour faire face à ça, nous devons traiter cette question d'opinion publique qui est toxique actuellement. Nous devons essayer de gérer la diversité qui est inexorable, diversité culturelle, ethnique, religieuse, si on va trouver une solution. Et je crois qu'on doit féliciter et remercier le chancelier allemand, Madame Angela Merkel, et le discours que président Hollande vient de faire, pour avoir le courage de dire les choses comme elles sont. Il faut avoir les campagnes d'information publique, d'éducation publique, de donner les chiffres comme notre collègue, le démographe, vient de donner une comparaison historique et surtout regarder un peu la contribution des migrants sur le développement de nos sociétés et nos économies.
Thomas Liebig.
J'aimerais bien revenir sur ce que vient de dire François Aron tout à l'heure. Donc, évidemment, c'est pas principalement en termes de rapport économique où il faut voir cette question-là. Mais bien sûr, on peut réfléchir comment on peut améliorer cet rapport économique. Et là, nous avons quand même des pistes. À l'OCDE, nous avons beaucoup travaillé sur cette question-là. Premièrement, c'est important d'investir assez tôt dans l'intégration de ces personnes-là. Donc, au moment qu'on en sait qu'ils vont rester dans le pays parce qu'ils vont avoir un statut plus ou moins stable, de les donner l'accès au marché du travail, d'investir dans l'apprentissage de la langue, dans le cours qu'ils ont adapté à leur niveau de compétence, avec une procédure aussi de cours passerelle pour ceux qui ont déjà des qualifications. En ce moment, on a quand même une population qui est très diverse aussi en termes d'éducation. Donc, il y a certains qui ont très, très peu d'éducation. Donc là, il faut être très clair et franc aussi. Ça, c'est un processus qui prend plusieurs années. Il faut vraiment les éduquer, ces personnes-là. Comme par ailleurs aussi, on éduque aussi les personnes qui sont beaucoup plus jeunes, qui arrivent dans les écoles françaises où il n'y a pas de problème. Il faut le voir comme un investissement dans l'avenir. Et pour les hautement qualifiés, ils ont besoin d'autres cours de langue qui sont assez différents de ceux que pour les peu éduqués. Mais aussi, eux, ils ont besoin de cours de langue spécifiques à leur qualification. Ça, c'est souvent pas fait. Et pour mieux les aider à utiliser leurs compétences. Parce qu'on a aussi un pourcentage, ça varie selon le pays d'origine. Ça peut aller dans le cas notamment des Irakiens et des Syriens jusqu'à 30-40%. Donc, pour ces groupes-là, il faut investir aussi dans leur qualification. Et le dernier point qui est très important dans le contexte actuel, peut-être moins en France que dans les autres pays, il faut, quand on les distribue ces personnes-là, il ne faut pas placer là où il y a le logement, il faut les placer là où il y a l'emploi. Et ça, c'est un grand défi.
En France, où l'emploi, cette semaine, on confirmait les chiffres, c'est quand même 10% de chômeurs. Vous comprenez bien qu'il y ait des craintes, même si effectivement l'économie n'est pas au centre, mais il y a quand même des craintes. Comment vous faites, vous, l'économiste, le démographe, pour rassurer ces gens s'ils ont besoin d'être rassurés parce qu'il y a des élections, parce que chaque pays européen a des élections, parce que aussi, pour reprendre la phrase de William Lacy Swing à l'instant, comme il le disait, il y a aussi une diversité ethnique et religieuse jamais vue jusqu'à présent.
Enfin, le chercheur, lui, il n'est pas là ni pour rassurer, ni pour inquiéter.
Non, mais vous avez des chiffres, vous avez des données.
Non, mais c'est important. Il est là pour essayer d'objectiver un peu les faits et pour essayer d'en avoir une vision aussi réaliste que possible. Et donc, par exemple, quand un homme politique, 2 ou 3 mois avant des élections, dit « il faut diviser par 2 le flux d'entrée des 200 000 migrants », alors que rien n'avait montré qu'il était capable de le faire dans les 7 années précédentes ou les 5 années précédentes, ben là, on voit bien que c'est totalement irréaliste, parce qu'effectivement, ça voudrait dire diviser les droits, le droit à épouser et qui l'on veut, le droit à vivre en famille, etc., diviser ce droit par 2, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Donc, on peut... Et ça, c'est tout à fait normal. Il faut qu'il y ait des politiques qui veillent à ce qu'il n'y ait pas un abus de droit, que le droit d'asile ne soit pas détourné par des abus, que le droit au mariage ne soit pas détourné, etc. Et ça, on l'a fait. Il y a toute une série de lois qui sont appliquées dans tous les pays. Enfin, ça a été vraiment systématique. Et malgré ça, ça n'a pas diminué de façon considérable le flux. Donc, nous, on est là pour dire, ben voilà, il y a des constantes, pour dire exactement où sont les problèmes. Si vous voulez vraiment diminuer le nombre des migrants non européens qui entrent en France chaque année, en dehors des crises, de la crise actuelle, hein, même de façon continue, eh bien, à ce moment-là, dites-le ouvertement. Vous voulez que la France résilie les conventions internationales. Dites-le ouvertement. Mais c'est par là que ça passe. Donc, nous sommes plutôt là pour dire, voilà où est le problème, voilà où sont les dilemmes, voilà quels sont les faits, voilà, etc. Et je ne peux pas, si vous voulez, donner de conseils politiques, ce serait un peu... Bon, surtout maintenant, alors, face à la crise actuelle, effectivement, qui a une solution? Le directeur général de l'OMI a rappelé que, effectivement, et c'est la première chose à rappeler, il y a quelque chose d'inexorable dans la migration. On n'est pas immigrationniste quand on dit ça. Hein. Le dilemme qui se pose maintenant entre immigrationniste et anti-immigration, enfin, est absurde. Il faut voir les choses de façon réelle. Alors, pour donner un ordre de grandeur, quand on regarde l'ensemble européen d'une part et les États-Unis de l'autre, c'est 2 continents d'immigration. L'Europe est un continent d'immigration, hein. Comme les États-Unis sont un continent d'immigration. Les proportions, dans les 10 dernières années, on recevait à peu près 2/3 ou 3/4 des flux que reçoivent les Américains, donc c'est déjà considérable. L'Europe n'est ni une forteresse, ni une passoire.
Et est-ce qu'il se passe depuis 6 mois, hein, pour reprendre comme ça, est-ce que ce qui se passe en ce moment est de nature à modifier cet équilibre des grandes masses que vous décrivez?
On va sans doute passer à des volumes et des proportions de flux qui vont ressembler à ceux des flux américains. Enfin, je pense, l'Europe va devenir est déjà un continent d'immigration, mais va le devenir dans une proportion, dans une mesure qui est à peu près, bon, alors celle des États-Unis actuellement, mais évidemment, quand même, il faut quand même rappeler les faits, c'est quand même lié à une guerre. Les chiffres ont été rappelés tout à l'heure. Il y a maintenant à peu près 4,5 millions de Syriens qui sont réfugiés, essentiellement d'abord dans les pays limitrophes. 40% de ces personnes, c'est la Turquie qui les accueille. Alors dans des conditions épouvantables, mais c'est la Turquie qui porte le fardeau de tout ça. Et ensuite, il y a la Jordanie, le Liban, quelques autres pays comme Chypre, etc. Donc, et nous, il y a les franges, parce que c'est sélectif comme processus. Il y a les franges, effectivement, plutôt les plus éduquées, les plus anglophones, qui pensent plutôt gagner l'Angleterre que gagner la France. Enfin, actuellement. Et alors, moi, il y a une phrase qui me choque toujours chaque fois que je l'entends. Elle a été prononcée notamment par tous les journalistes, mais notamment par l'ambassadeur britannique en France. C'est « il faut surtout montrer à ces immigrés que ce n'est pas l'Eldorado ». Ils courraient après un rêve, le rêve de l'Eldorado. Mais non, ils ne cherchent pas l'Eldorado, ils cherchent tout simplement une vie normale. Ils fuient la terreur et la persécution, ils fuient des régimes épouvantables, ils fuient la guerre civile, et ils veulent tout simplement essayer de mener une vie normale. Et chaque fois qu'on dit ils sont en quête de l'Eldorado, il y a dans cette phrase quelque chose que je trouve extrêmement méprisant et condescendant, qui ne correspond pas du tout à la réalité.
William Lacy-Swing.
Oui, je voulais simplement ajouter un peu sur cette la dernière
très rapidement, phrase, s'il vous plaît.
Que nous avons un peu une crise de solidarité, parce que pour le moment, on n'a pas encore un programme commun entre les 28 membres de l'Union européenne. Et c'est ça qu'il faut maintenant si on va avoir une politique compréhensive migratoire.
Thomas Liebig, pour finir très rapidement.
Je crois que si on rappelle les chiffres, c'est aussi important de rappeler que la France n'est pas en première ligne de tous ces flux-là. Si on regarde le chiffre des demandes d'asile ces derniers mois, ça n'a pas augmenté par rapport à l'année d'avant. Contrairement à beaucoup d'autres pays européens, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, où ça s'est vraiment beaucoup augmenté et où le niveau est aussi beaucoup plus élevé. L'Allemagne a eu dans les 6 premiers mois de cette année 8 fois plus de demandes d'asile que la France. Et aussi en termes d'immigration, donc là on ne parle pas des demandeurs d'asile, mais des gens qui ont eu un titre de séjour, donc ça comprend tous les migrants. La France est loin d'être le pays qui accueille le plus. C'est plutôt un pays qui est en dessous de la moyenne de l'OCDE, et je crois que c'est important de le rappeler aussi.
Merci messieurs pour vos éclairages. C'est la fin de ce Géopolitique. Merci à Sophie Janin, efficace réalisatrice de cette émission. Merci aux auditeurs bien sûr. Vous retrouvez Marie-France Chatin dès dimanche prochain, fidèle au poste.